Le texte que j'ai choisi pour vous ce matin, pour le message de ce matin, c'est un texte en fait qui aurait été de mise dimanche prochain, dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques. On va prier ensemble. Seigneur, on s'arrête maintenant pour déclarer que tu es venu comme la lumière du monde. Alors éclaire-nous ce matin par ta parole, par le Saint-Esprit. Seigneur, notre âme est attachée à la poussière. Rends-nous la vie selon ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je fais la lecture, Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit, non, excusez, 20. Je vous ai dit 23 tantôt, hein? On commence au verset 20. Alors, quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Et Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe leur dire à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alors, j'espère que Pasteur Emmanuel n'a pas l'intention de prêcher sur l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, parce que là, je viens de... Ben, écoute, il reste encore toute la portion, je ne m'étendrai pas sur son arrivée à Jérusalem, mais quand même, je vais devoir le faire juste pour vous mettre un peu en contexte. Alors, on a Jésus qui finalement accepte de se présenter comme roi. Il est acclamé, il entre à Jérusalem sous les applaudissements, sous les honneurs qui se doivent à un roi. Et Jésus est maintenant celui qui a ressuscité Lazare. Pour se mettre dans le contexte, peu de temps avant... Il a fait peut-être ce qu'on pourrait appeler le plus grand de ses miracles, mis à part sa propre résurrection. Il ressuscite Lazare. Il a multiplié les pains, il a marché sur l'eau, il a guéri des aveugles, il a guéri des sourds, il a transformé l'eau en vin, premier miracle. Mais là, Jésus, sa réputation le précède, et il est maintenant le gars, celui qui a ressuscité Lazare. Et il est entre les chefs religieux qui, d'un côté, veulent sa peau, veulent Jésus, veulent finalement le traîner en justice pour le faire mourir. Mais non seulement lui, mais maintenant Lazare aussi fait partie des most wanted, des recherchés sur qui on a mis une prime. Alors Jésus et Lazare. Donc d'un côté, ces chefs religieux, et d'un autre côté, vous avez cette foule qui l'acclame, qui sont sous l'émotion, et puis... qui l'accueille comme roi, Hosanna, fils de David, avec raison, Jésus se présente à eux, effectivement, comme roi, assis sur l'ânon, sur le petit d'un homme. Et on peut se demander comment ces chefs religieux, qui normalement doivent être des modèles pour le peuple, qui normalement doivent être une inspiration, comme tracer la voie pour suivre et marcher dans l'obéissance à Dieu, vivent avec une telle corruption dans leur cœur. Comment est-ce qu'ils peuvent vivre avec une telle corruption, eux qui sont, on pourrait dire, dans le monde religieux, on va souvent utiliser le mot « élite », quoique ce n'en est pas une. Le Seigneur nous remet les pendules à l'heure. Mais on vit avec cette image-là. Donc, l'élite, dans le sens, ils tracent la voie. Ils sont un peu ceux qui défrichent, qui montrent au peuple la direction à prendre, qui rappellent la loi de Dieu. Comment est-ce qu'une corruption aussi profonde, aussi enracinée, peut habiter leur cœur? Cherchent à faire mourir Jésus, son plus grand miracle, Lazare. Et dans une soif de pouvoir, ils se mettent plus en peine de la stabilité politique. Ils disent, il faut le faire mourir, les Romains vont nous tomber dessus. On doit faire quelque chose. Donc, il semblerait qu'ils se mettent plus en peine pour la stabilité politique que de s'arrêter et puis de dire, Ses œuvres rendent vraiment témoignage de qui il est. On a devant nous quelqu'un hors du commun. On a beau s'opposer à sa manière de faire les choses, au nombre de fois où il a violé le sabbat, en guérissant et en sauvant des pauvres le jour du sabbat, on a devant nous quand même quelqu'un hors du commun. Ses œuvres, comme Jésus le dit lui-même, rendent témoignage qu'il est vraiment venu du Père. Non, ils sont complètement aveuglés. Complètement aveuglés, cette corruption. Donc, tout ça pour dire qu'adhérer à une religion ne change pas le cœur. La corruption va demeurer. Adhérer à un système de valeurs morales ne change pas le cœur non plus. Ça va freiner le mal. Ça va freiner le mal, ça va faire de nous des bons citoyens. Mais ça ne change pas le cœur. La corruption demeure. Et dans ce contexte-là, vous avez ces Grecs qui s'approchent. Et qui s'approchent de Philippe. Ils lui demandent avec instance. Il le prie. On pourrait peut-être même penser qu'il le supplie. N'oubliez pas, Jésus est connu. Déjà 3 ans de ministère. Et là, tout récemment, il ressuscite carrément un mort. Ils veulent voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voudrions, nous aimerions voir Jésus. Fais-nous voir Jésus. Ces Grecs, probablement prosélytes, convertis au judaïsme, qui viennent adorer. Et probablement d'un cœur sincère, veulent voir Jésus. Et on peut se poser la question, quel Jésus sont-ils venus voir? Quel Jésus sont-ils venus voir? Est-ce qu'ils sont venus voir le Jésus qui nourrit les foules, qui opère des guérisons? Le Jésus qui a ressuscité Lazare tout récemment? Ou comme bon grec, est-ce qu'ils sont venus afin que Jésus leur expose de belles et grandes vérités pour leur apporter un peu plus de sagesse et aller débattre entre eux? Parce que les Grecs ont été connus pour des grands discours. On doit se poser la question, où mènent ces discours? Où mènent nos discours? Fais-nous voir Jésus. À quoi ces Grecs s'attendaient durant cette rencontre, ce face-à-face, ce tête-à-tête avec Jésus? Quel Jésus sont-ils venus voir? Le Jésus qui livre un bon message? Les gens étaient étonnés par l'autorité avec laquelle Jésus parlait. Est-ce qu'ils se sont approchés pour avoir un autre de ces bons messages? Il y a James Packer qui dénonce le nouvel évangile en vogue, qui n'est pas si nouveau en fait. On dit nouveau parce qu'il est venu après, puis qui est encore très en vogue aujourd'hui. Le nouvel évangile qui est présenté plutôt comme Jésus qui vient aider les chrétiens. Jésus qui vient aider les chrétiens, ceux qui se confient en lui. Donc, vous allez me dire, ouais, mais est-ce que Dieu n'est pas là justement pour nous aider? Oui, c'est subtil. La ligne est très subtile. C'est que ce nouvel évangile que Packer dénonce ici, c'est que l'anthropologie est établie comme point de départ et c'est l'anthropologie qui définit ma théologie. Donc, en d'autres mots, c'est ma vision, mon expérience, ma réflexion qui définissent après ce que Dieu est, le caractère de Dieu. Donc, c'est le danger de ce nouvel évangile qui est prêché pour nous amener à nous sentir bien. Mais au lieu que ma vision de Dieu définisse après tout le reste, c'est plutôt ma réflexion, mon ressenti, mon expérience qui définissent Dieu, qui définissent son caractère. Alors, ces Grecs viennent, s'approchent, ils veulent voir Jésus. Ils ont entendu parler de lui. Maintenant, ils veulent le rencontrer face à face. Ils veulent le voir. Et encore une fois, Jésus va surprendre par sa réponse. Il va leur dire, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Pourquoi est-ce que Jésus... Bien là, on le sait, on connaît les Écritures. On est à 5 jours de Pâques. On est à 5 jours de Pâques dans le texte. Jésus marche vers sa mort. Et il leur dit, « Le Fils de l'homme doit être glorifié. » Pourquoi est-ce qu'il leur répond ça à ce moment-là, dans ces circonstances-là? Une réponse qui surprend. Il est effectivement accueilli comme un roi. Ces Grecs-là en sont témoins. Mais son règne, sa puissance, sa gloire dépasse toute attente, tout concept que les gens ont pu se faire. Jésus est en train de leur dire, dans un sens, vous pensez que mon entrée triomphale à Jérusalem a été une manière pour moi d'être glorifié, vous n'avez rien vu. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'implique le fait que le Fils de l'homme soit glorifié. On a en tête cet honneur qui est dû au roi, on a en tête cette gloire qu'on leur doit. Mais ce que Jésus est en train de répondre, peut-être pas directement aux Grecs, on ne sait pas si finalement ils ont pu avoir cette rencontre avec Jésus. Ce qu'on sait, c'est que Philippe et André vont rapporter cette demande-là à Jésus. Et il leur répond, vous n'avez aucune idée du règne, de la puissance puis de la gloire qui m'appartiennent. C'est sans commune mesure. Un texte que j'ai oublié d'envoyer, Éphésiens 1:20, puis ensuite Philippiens 2:9. Éphésiens 1:20 dit, il l'a déployé, donc sa puissance, Dieu l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est en train de leur dire, je vais vous montrer de quelle gloire m'appartient, quelle est la puissance qui m'appartient, quel roi, de quel type de roi je suis, et quel impact, quelle implication ça va avoir sur vos vies. Parce que Jésus, effectivement, va être glorifié parmi les nations à partir du moment où il va être mis sur la croix et ressuscité. C'est à ce moment-là que les nations vont pouvoir recevoir ce témoignage, le salut qui va être annoncé. Philippiens 2:9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est ce qui réjouit le cœur du Père. Son Fils qui est glorifié et de voir son peuple qui marche à sa suite et qui l'acclame réellement comme il est. Donc, Jésus, c'est pour ça qu'en entrée de jeu, je prie au Seigneur, éclaire-nous. Tu es venu comme la lumière, éclaire-nous afin qu'on puisse te connaître tel que tu es. Pas selon l'idée qu'on se fait, selon le concept, à cause de notre background religieux, à cause de notre background familial, à cause de notre vécu, de nos réflexions. Toi, Jésus, roi des rois, nous voulons te voir tel que tu es. Révèle-toi à nous. Révèle-toi à nous. Fais-toi connaître à nous. C'est ce que Jésus est en train de répondre à André puis à Philippe. Il est ce roi glorieux, mais qui en même temps, qui vient à toi plein de douceur. Il est ce roi glorieux qui vient à nous plein de douceur. Il va venir autrement à la résurrection quand il va venir juger les nations. Mais il est ce roi puissant, digne d'être adoré, d'être loué, ce grand Dieu créateur, assis sur le petit d'un âne qui vient plein de douceur comme Zacharie, prophète Zacharie l'avait prophétisé. Et quand Jésus leur annonce qu'il doit être glorifié, ce qui suit va frapper encore plus. Alors, mettez-vous à la place des Grecs qui s'attendent à un entretien avec un roi, un guérisseur. Écoutez, ceux qui l'acclamaient, n'oubliez pas, Jésus le dit, il n'en fait pas trop un cas. Il connaît leur cœur parce que plusieurs d'entre eux vont l'appeler prophète. Ils ne l'ont pas encore connu comme il est réellement. Fils de Dieu, fils de l'homme, comme Jésus le dit lui-même. Alors, mettez-vous à la place de ces Grecs qui sont là face à lui. Jésus leur dit, le temps est venu pour le Fils de l'homme d'être glorifié, et voici comment il va être glorifié. Et il leur sort cette parabole du grain qui doit mourir. Le Fils de l'homme va être glorifié à travers la mort. Le roi des rois doit mourir. Si le grain de blé ne meurt, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Augustin va dire, c'est de lui-même qu'il parlait, évidemment, parce qu'on est des fois très vite pour ramener la parole centrée sur nous. Hein? Alors, évidemment que, comme le dit Augustin, il parle de lui-même, il était le grain qui devait périr pour se multiplier ensuite. Il devait périr victime de l'infidélité des Juifs, de la rage des Juifs, on pourrait dire. Mais cette élite qui entraînait ensuite la foule avait une rage. Il devait périr victime de l'infidélité des Juifs et se multiplier par la foi des peuples. Maintenant, ce Jésus qu'on a devant nous, à la fois homme et à la fois Dieu, je vous pose une question ce matin. Est-ce qu'il est possible que Jésus ait eu envie de tout abandonner? Au courant de son ministère, mais surtout dans ce moment critique où il marche vers sa mort. Est-ce qu'il est possible, selon vous, que Jésus ait déjà voulu tout abandonner? Emmanuel Lallier. Quelqu'un dit oui? Est-ce qu'il y en a qui disent non? Il y a quelqu'un qui dit non? Quand même le Fils de Dieu, mais il est homme, pleinement homme. Évidemment que oui. Évidemment que oui, verset 27, juste un peu plus tard, on est un peu plus loin, on s'est arrêté là, mais Jésus va dire maintenant, juste après avoir donné un peu le plan de match, il va dire maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. C'est pas de la, comment on dit là? Parler pour parler, il y a un beau mot pour la rhétorique. C'est pas de la rhétorique. Jésus est réellement en train de dire, est-ce que je demande au Père de me délivrer de cette, comme il le dit dans les autres évangiles, de cette coupe, d'éloigner de moi cette coupe? Que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est pour ça que je suis venu jusqu'ici. Père, glorifie ton nom. Alors, est-ce que Jésus a déjà voulu tout abandonner? Est-ce qu'il aurait voulu faire demi-tour et s'éloigner de ce qu'il attendait? Oui, absolument. On peut poser la question autrement. Est-ce que ça a été toujours facile pour lui de vivre dans une soumission parfaite au Père? Non. Jésus a été tenté comme nous. Quand on dit que Jésus a été tenté comme vous et moi, c'est qu'il a réellement eu ces moments où il aurait voulu abandonner, mais il n'a pas connu le péché. Alors, il l'a poursuivi dans cette soumission au Père. Mais de dire que Jésus a toujours vécu cette obéissance parfaite ne veut pas dire qu'il n'a jamais été tenté de se retirer. Et ça n'enlève rien au fait qu'il est réellement le Fils de Dieu. Mais c'est pour nous rappeler à quel point on a réellement un représentant, le Fils de l'homme, notre représentant. Il a connu ces moments, comme vous et moi, où on a le goût de tout abandonner. La mission est claire devant nous, la ligne est tracée, on sait exactement dans quelle direction marcher, mais la pression est trop forte. Les circonstances sont trop lourdes. Je vous rappelle ce matin que vous n'êtes pas seul. On l'a vu dernièrement à travers plusieurs prédications. Il intercède pour vous et moi en ce moment même. N'abandonnez pas. Ne vous isolez pas. Tenez-vous avec les frères et sœurs, avec l'Église. C'est notre soutien. Parce qu'il marche lui-même au milieu de nous. Il nous soutient lui-même. Alors absolument, comme homme, il a vécu ces moments-là, il a traversé ces moments-là. Et il est à ce moment-là, dans ce texte, qui nous rappelle comment se sont déroulées ces dernières journées avant de finalement être crucifié, on voit qu'il vit cette pression. Et avec lui, on forme une main de plante. On a été baptisés, vous et moi, dans sa mort afin de jouir de cette victoire qu'il a eue sur la mort. On a été baptisés dans sa mort afin de marcher en nouveauté de vie parce qu'il a finalement, malgré les tentations, malgré ces moments où il aurait voulu laisser tomber, Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort, a été obéissant, soumis à son Père jusqu'à la mort. Et le Père l'a ressuscité. Et on peut marcher, vous et moi, aujourd'hui, en nouveauté de vie, avec cette victoire-là qui nous est acquise. On forme une même plante avec lui. On forme une même plante avec le Seigneur Jésus. Mais ce grain qui tombe en terre, s'il ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et puisque nous sommes une même plante avec le Seigneur Jésus, on va connaître ce processus de mort dans nos vies. Et c'est ce qui nous amène à le ressembler de plus en plus. C'est ce qui nous amène à nous coller à lui et à désirer toujours plus sa volonté pour nos vies. On va connaître ce processus de mort afin de nous détacher des illusions dans nos vies, de ces choses qui captivent nos cœurs, mais qui sont en train de nous étouffer. Et par ce processus de mort-là, le Seigneur nous forme, comme j'aime répéter souvent aux enfants à la CRN, il vient, pas modeler, mais façonner nos affections. Il vient façonner nos affections. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Augustin va dire, « Grande et étonnante vérité, l'homme a pour son âme un amour qui la fait périr et une haine qui l'empêche de périr. Si tu aimes mal, tu détestes. Si tu hais de la bonne manière, tu aimes. » Je n'ai pas perdu, là. C'est comme la question reprise dans toutes sortes de, dans tous les sens. « Si tu aimes mal, tu détestes, mais si tu hais de la bonne manière, pas être, mais haïr, OK? » Bien compris. Donc, si tu, au Québec, on dirait, si tu haïs de la bonne manière, tu aimes. Heureux ceux qui savent haïr pour conserver de peur de perdre en aimant. Ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'on doit cesser de chercher à réussir notre vie par tous les moyens, selon nos propres standards et selon les standards du monde. On est appelé à le suivre, lui, le Seigneur. On est appelé à le suivre. Donc, cessons de par tous les moyens, de réussir notre vie selon nos standards. Cessons de préserver nos vies, de vivre pour soi-même. Et ça, ce n'est pas en faisant tous les efforts du monde qu'on va y arriver. C'est dans la communion avec le Fils qui, justement, façonne nos désirs, qui façonne nos affections. Et qu'est-ce que ça veut dire, servir le Seigneur? Parce qu'ensuite, il va dire, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et ma prière pour nous ce matin, c'est que lui-même vienne nous délivrer de notre quête folle, de ce qu'on est en train de poursuivre dans nos vies, qui est peut-être en train de nous amener dans la mauvaise direction. Alors Seigneur, viens et prends-nous par la main et conduis-nous, toi, dans tes voies. Qu'est-ce que le servir? C'est plus que de faire des choses, toutes sortes de choses pour lui. On apprend que le Seigneur, ce qu'il désire d'abord, c'est qu'on s'assoie comme Marie, la sœur de Marthe, et qu'on entende de lui, qu'on reçoive son instruction, afin de discerner et puis de justement le suivre. Mais pas de s'asseoir et d'écouter comme le veulent les philosophes grecs. pour simplement après débattre des idées. L'instruction qu'on soit du Seigneur, ce n'est pas dans le but de débattre des idées puis d'avoir de beaux discours entre nous. C'est dans le but de le suivre. Donc, le servir, c'est le suivre. C'est que je ne suis pas en train de se faire des choses pour le Seigneur. Je suis en train de, dans la prière, d'apprendre à discerner sa volonté pour moi et d'y marcher. Et Augustin, je continue avec Augustin, il va dire, « Ceux-là donc servent Jésus-Christ qui ne cherchent pas leurs propres intérêts, mais les siens propres. » Si vous demandez ce matin, qu'est-ce que ça veut dire servir le Seigneur et le suivre? Une chose parmi d'autres qu'on peut retenir, c'est de chercher ses intérêts au lieu de chercher mes propres intérêts. C'est pour ça que je vous parlais tantôt que lui vient façonner nos affections, il vient façonner aussi nos intérêts. Alors, le servir, le suivre, c'est chercher ses intérêts. Comme Paul dit dans Philippiens 2:20, tous en effet cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Alors, pour revenir aux Grecs, à leurs attentes, qu'on peut s'imaginer comme bon grec, un vrai bon message va nous transformer à l'image de Christ. Un vrai bon message va nous transformer à l'image de Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de défaire un peu des clichés, hein, des choses qu'on... dans notre jargon de chrétien qu'on se dit souvent, mais des fois, on peut perdre le sens. On peut perdre le sens. Transformer à l'image de Christ, c'est se faire remarquer pour notre sainteté, briller au milieu de l'Église par notre sainteté. J'ai été transformé. Non, Jésus, il dit que Jésus est venu pour servir et non être servi. Je suis mis à part pour servir et non pour être servi. Alors, être transformé à l'image de Christ, c'est que je découvre ce trésor-là parce que lui pourvoit. C'est un service où lui nous rend capables. Lui a toutes les provisions pour nous afin de servir. Et vous savez quoi? Souvent, on s'arrête à la limite de nos capacités naturelles. Donc, ce matin, je veux vous rappeler que marcher avec Dieu, c'est effectivement impossible. Marcher avec Dieu, c'est impossible. On doit marcher par la foi, c'est-à-dire dans l'attente de ce que Dieu va pourvoir pour le service en question. Et là, je ne suis pas en train de parler nécessairement de grands services, de missions. Non, je parle à chaque journée. Dans les petites choses, je suis appelé à servir fidèlement, comme le faisant pour Dieu, comme parent, comme époux, épouse, à travers tous les ministères à l'Église, comme voisin, comme témoin de Jésus-Christ. Alors, comme Pierre a dit, Jésus nous a laissé un exemple et on veut ensemble lui ressembler. Il va dire aussi, Paul va dire dans Actes 20-24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Paul a découvert un trésor. C'est ce qui lui permet de lui dire, « Je ne fais plus aucun cas de ma vie. » Dernièrement, je vous parlais de l'agenda, nos agendas personnels. Paul est en train de dire, je vois ça comme de la boue maintenant. Mon plan de retraite, mon agenda personnel. Seigneur, ma retraite t'appartient. L'argent que j'ai mis de côté t'appartient. Les REER, mes REER, là, ils t'appartiennent. Ma vie, votre vie lui appartient. Je ne fais plus aucun cas de ma vie parce que j'ai découvert un autre trésor. Et je suis à la poursuite, pas d'une chose, mais d'une personne, le Seigneur lui-même qui a gagné mon cœur et qui me rend capable de le servir. et qui me fait découvrir une joie. Il me fait découvrir une joie. Paul est en train de dire, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Wow! Donc, je sers une cause beaucoup plus grande, beaucoup plus grande que de réussir ma vie selon mes propres standards et ceux du monde. Vous rappelez Watchmani? Quand je pense à Watchmani, je pense toujours à cette phrase qui s'est fait dire par un prof, hein, si je me souviens bien, qui a vu comment était devenue la vie de cet homme en Chine, un prédicateur responsable d'église. Et si je me souviens bien, le prof en question a dit à Watchmani, quel gaspillage! Hein, aux yeux du monde, quel gaspillage de t'être abaissé comme ça, d'avoir servi. Donc, de toute évidence, ce ne sont pas tous qui vont voir le trésor qui est le nôtre. Donc, il faut être prêt à accepter un certain inconfort pour servir le Seigneur. Ça nous amène, pas toujours, mais des fois, hors de notre zone de confort. Il faut être prêt à ça. Il faut être prêt à ça. Accepter un certain inconfort pour servir Dieu. Apocalypse 12, 11 va dire, « Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à redouter de mourir. » Oh. Sa bonté, un passage que je répète souvent, sa bonté, merci pour la rapidité au niveau des passages, je n'avais pas envoyé ma liste. Sa bonté vaut mieux que la vie. Sa bonté vaut mieux que la vie, vaut mieux que tout ce que la vie peut me promettre, entre guillemets. C'est ce que je veux pour moi. C'est tellement mieux que tout ce que je peux avoir planifié, tout prévu. Rappelez-vous d'Étienne, je veux transporter maintenant, quelques années plus tard. Alors justement, Jésus est ce, comme l'image qu'il a donnée, ce grain de blé qui est mort en terre et qui a porté beaucoup de fruits. L'Église naît et des milliers de personnes se convertissent, se tournent vers lui. Le travail des apôtres est phénoménal. Les guérisons se font, l'Église grossit, les gens vendent, mettent en commun. Et puis finalement, on vient à décider de mettre à part quelques personnes pour le service. Ce sont les premiers diacres. Et vous avez Étienne. Étienne rempli de sagesse et de Saint-Esprit. Rappelez-vous d'Étienne. Il dit quand il se présente devant les autorités, encore une fois, qu'il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors, Étienne va rendre témoignage encore là, ça va déclencher une rage parmi les gens qui l'écoutent. Et tellement qu'au moment, il va dire, je vois le Seigneur Jésus debout à la droite du Père. Là, c'est en effet, son sort est joué. Il le traîne dehors et il meurt lapidé. Et comme Jésus va dire avant de s'endormir, en apparaît, je pense, utilise ce mot, s'endormir, va dire, Seigneur, pardonne-leur, un peu comme Jésus, en d'autres mots, mais pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, voyez, vous et moi, on a besoin de voir et de revoir et d'être saisis par ce Jésus, Fils de Dieu, debout à la droite du Père. Et tout ce que ça implique pour nous, tout ce que Jésus est en train de commander en notre faveur. Et donc, Étienne voit ce Jésus et puis il en meurt. Mais sa persécution, voyez l'effet de sa persécution va provoquer la dispersion des chrétiens qui vont quitter Jérusalem et ça va déclencher le premier mouvement missionnaire. Et on connaît entre autres l'histoire de Philippe. Hein, Philippe va parler avec l'eunuque et tout le reste. Donc, Étienne n'a pas considéré sa vie comme étant si précieuse. Il a rendu témoignage. Maintenant, je suis pas mal certain que peu d'entre vous vont mourir martyrs. avant que vous partiez, que le Seigneur vous appelle à partir dans ces lointaines contrées. Mais voyez le résultat, voyez le fruit, soit d'un martyr ou de personnes comme vous et moi qui marchons et qui ne refusons pas ce processus de mort où on se détache de ce qui est illusoire, de ce qui nous perd, de ce qui est... Tu sais, quand dans l'Hébreu, il va nous dire, rejetez tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Rejetons ça. Voyez le fruit que ça a apporté. Proverbe 11:30 va dire, le fruit du juste est un arbre de vie. Vous ne mesurez pas l'impact de votre obéissance. Une obéissance qui est préférée à une vie réussie selon nos propres standards. Il vaut mieux obéir à Dieu et de lui rendre gloire pour ses fruits et sa porte. Le fruit du juste est un arbre de vie. Celui qui gagne des âmes est sage. Celui qui gagne des âmes est sage. Proverbe 11:30. Wow! C'est à ce genre de vocation qu'on est appelé. Et la bonne nouvelle, c'est que quand Dieu appelle, comme notre pasteur le rappelle souvent, quand Dieu appelle, il justifie. Et on peut être sûr et certain qu'il va être pourvu. La provision est là. Donc, encore une fois, je vous encourage ce matin à ne pas vous arrêter à la limite de vos capacités naturelles, de votre ressenti. Là, c'est le moment, à ce moment-là, vous savez quoi? C'est le moment d'agir dans la prière. Seigneur, je n'ai pas envie, j'ai un tas d'autres choses plus intéressantes pour moi-même, mais si tu m'appelles, je vais y aller et je sais qu'il va être au rendez-vous. Je sais qu'il va être au rendez-vous. Et il y a une promesse qui vient avec ça. On va terminer avec le dernier verset. Alors, il disait, donc on a lu tantôt au verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. » Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Hébreux 6:10. Dernier coup de gâchette pour Pasteur Rive. Vraiment. Merci beaucoup. Hébreux 6:10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Le Père nous promet de nous honorer, et déjà il le fait. Déjà il le fait. Fait qu'on va se lever ensemble, on va prier. Et puis peut-être, je ne sais pas si nos chantres avaient un dernier chant. J'ai oublié d'en parler à Noémie, mais la semaine prochaine, c'est dispo pour un petit compte rendu. Je le dis juste entre toi et moi, sur Sola. Alors, Seigneur, on est reconnaissant parce que la vie à laquelle tu nous appelles est tellement au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Et il suffit d'y marcher avec foi, dans le sens de croire que c'est dans l'obéissance, dans la soumission à ta volonté qu'on découvre ce trésor où toi-même tu viens et que tu pourvois, que tu te fais connaître à nous. Et permets-nous, Seigneur, comme je te le priais tout au début, de te voir. Un peu comme les Grecs qui sont venus et peut-être ne savaient pas trop à quoi s'attendre. Seigneur, tu t'es fait connaître à nous, tu nous as rachetés. Notre désir, c'est que tu viennes et que tu te révèles encore un peu plus à nous, que tu puisses venir nous consoler cette semaine. Tu es venu, Seigneur, tu t'es présenté comme ce roi plein de douceur. Merci de venir panser nos blessures, de nous relever, de tracer la voie devant nous, Seigneur. Alors, bénis ton peuple, vraiment, viens relever ceux qui traversent la maladie en ce moment. On prie pour Pasteur Jeff, qui est probablement en train de nous écouter ce matin de la maison. Bénis-le abondamment, sa femme Carole, la famille, et tous ceux qui vivent de la maladie en ce moment. Seigneur, merci d'entendre nos prières. Merci d'être ce roi glorieux, tout puissant, mais qui en même temps est concerné par nous. Alors, bénis ton Église, au nom de Jésus.